réclame un républicain.
Que réclame un républicain.
L'égalité du genre humain.
L'égalité du genre humain.
Plus de pauvres à genoux.
Plus de riches debout. Dansons la carmagnole. Vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole. Vive le son du canon. Assaillera, assaillera, assaillera. Les aristocrates à la lanterne. Assaillera, assaillera, assaillera. Les aristocrates et les bourgeois. Dans la vieille cité française existe une race de fées dont l'âme comme une fournaise a de son feu brûlé la chair. Pour ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis. C'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans souper il me rêve. Assonné à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qui loge et qui la déshabille. C'est la canaille. Eh bien j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que le trembleur ont dit depuis. C'est la canaille. Eh bien j'en suis. Debout les damnés de la terre, et debout les forçats de la faim. La raison tenant son cratère, c'est l'éruption de la faim. C'est l'éruption de la faim. Du passé faisons table rase, pour l'esclave debout debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, contre nous et demain. L'internationale sera le genre humain.
Sera le genre humain. Amis auditeurs, amis auditrices, bonjour, vous êtes bien sur la clé des ondes 90.1, vous écoutez l'émission Acétone qui vient de commencer à l'instant. Dans le studio, nous avons du monde, on vous offre aujourd'hui un autre regard sur les élections européennes et les suites des élections européennes, notamment pour le premier tour des élections législatives. Donc c'est notre septième table politique, mais nous avons souhaité inviter un citoyen. Bonjour Jean-Pierre Labreuil, qui est citoyen talençais, et il vous racontera ce qu'il a entrepris pour ce premier tour des élections législatives. En face de toi, il y a notre ami Michel Cabanne. Michel, bonjour.
Bonjour.
Toi, tu es un économiste atterré.
Oui, toujours.
Tu vas nous parler un peu de ce programme du Nouveau Front Populaire.
Oui, d'accord.
À côté de toi, il y a notre ami Anne. Yann, pardon. Bonjour Yann, je te féminise. en face de toi, il y a une autre camarade, c'est Claude. Bonjour Claude.
Bonjour.
Tu es au NPAR, tandis que Yann est à Révolution Permanente. Et en face de moi, j'ai Denis. Bonjour Denis.
Bonjour.
Voilà, toi, tu es à Lutte Ouvrière.
Exact.
Tu prendras la parole pour Lutte Ouvrière. Et donc, nous avons aussi notre ami Jean-Luc Gasnier, qui va bien évidemment poser des questions, et au même titre que moi. Du moins, il va compléter le tour de parole, comme on dit. Voilà, donc on va, avant de commencer l'émission, vous lire La Zapatac. La Zapatac, c'est un texte qui est paru sur le blog de Mediapart. Un texte écrit justement par Jean-Luc qui est à TAC 33. Vas-y Jean-Luc.
Alors, ordre et désordre. Les européennes sont passées et le choc est toujours là, bien présent, mais aussi en devenir avec les élections législatives anticipées entraînées par la dissolution. Le Rassemblement national est désormais l'astre noir de la politique française. Tout semble graviter autour d'un mouvement qui a longtemps fait figure de paria, mais qui prospère depuis que Marine Le Pen en a pris le contrôle et lissé son discours. Dans un écosystème, pour adopter le langage des communicants, qui lui est globalement favorable. Le libéralisme économique et les milieux d'affaires se sont toujours accommodés des régimes fascistes d'extrême droite, et la montée du Rassemblement national doit beaucoup au remarquable travail d'endoctrinement et de manipulation de l'opinion accompli par les principaux médias détenus par une poignée de milliardaires, ainsi qu'au processus de légitimation entrepris depuis 2022 par le clan macroniste, afin de marginaliser la NUPES et la France insoumise en particulier. Le mur de l'argent, se dresse aujourd'hui avec le Rassemblement national pour s'opposer à la démocratie et au désordre engendré par le multiculturalisme, la créolisation de la société et l'islamo-gauchisme. Entre la gauche réunie sous la bannière du Nouveau Front Populaire et l'extrême droite, les élites économiques ont clairement choisi leur camp, et c'est le camp des imposteurs qui, sous couvert de défendre le peuple, vont encore accentuer l'ordre implacable d'une oligarchie dominante dont ils dénoncent pourtant les excès. Le 7 juillet prochain, le Capital entend bien, avec la progression, voire la victoire du Rassemblement National, conforter encore son emprise. Le Parti de l'Ordre veut rétablir l'esprit de discipline et de soumission dont les entreprises et notamment les grands groupes ont besoin pour prospérer. Le Rassemblement National et les Républicains de Ciotti vont remettre la France au travail pour servir avant tout le capitalisme et accessoirement la famille et la patrie. Leur France n'a nullement besoin de citoyens émancipés et de travailleurs qui réfléchissent aux conséquences sociales et écologiques de leurs actes de production, mais de serviteurs zélés. Un ordre qui n'est pas nouveau, mais encore plus implacable, se profile à l'horizon, un ordre porteur de grands désordres et de violences. Car aujourd'hui, paradoxalement, le parti de l'ordre, c'est assurément celui du désordre croissant, celui du désordre généré par la voracité et la boursouflure du capital, par une création de richesses qui, captée par une minorité, accroît la misère du plus grand nombre. Le parti de l'ordre est synonyme d'insécurité grandissante et de déséquilibre écologique générateur de catastrophes. Le choix proposé le 30 juin et le 7 juillet est simple. Voulons-nous d'une société où les résidents étrangers, totalement privés de droits, ne seront plus des sujets mais simplement des objets à la disposition des entreprises ou destinés à être entassés dans des centres de détention en attendant d'être renvoyés vers le lieu de départ ou d'origine? Voulons-nous d'une société où les écologistes seront fichés comme terroristes? Voulons-nous d'une société où la représentation syndicale ne sera tolérée qu'à condition de collaborer avec les patrons? Voulons-nous d'une société où les luttes sociales et écologiques seront encore plus violemment réprimées? Voulons-nous d'une société où les sous-sols des commissariats et de la sous-direction antiterroriste regorgeront de citoyens considérés comme déviants? Voulons-nous d'une société tétanisée, d'une société de travailleurs aux ordres? Voulons-nous d'une société où régnera la violence? Le 30 juin et le 7 juillet, il faut voter Marine Tondelier, il faut voter Emmanuel Bompard, il faut voter Olivier Faure, il faut voter Fabien Roussel, il faut voter Poutou, il faut même voter Hollande. Il faut voter sans trop réfléchir, dans une sorte de réflexe de survie. Il faut voter pour stopper la bête immonde qui éructe déjà. Le 8 juillet, on va tout nettoyer au lance-flammes et au bazooka. Ça, ce sont des propos qui ont été rapportés par...
Dis-le à l'antenne.
Propos qui ont été rapportés donc par un candidat de la France Insoumise sur un marché.
Voilà, donc les questions sont posées, elles ont le mérite d'être claires, mais au préalable, moi j'aimerais vous entendre un peu sur les nouveaux sondages, parce que bien évidemment il faut que tous les militants de la gauche soient sur le pont pour battre le Rassemblement National, mais il y a eu des élections européennes avec ce que ça a été, et il y a de nouveaux sondages. On aurait pu dire et on pouvait dire que les résultats des élections européennes étaient un vote de désespoir, un vote de détournement, un vote de colère, un vote qui représentait une révolte de la part des citoyens et citoyennes de ce pays. Mais si c'était le cas, ça se serait vraisemblablement redressé dans les sondages. Or, avant les élections européennes, les sondages annonçaient le RN à 32%. Et aujourd'hui, malheureusement, encore, il est annoncé à 31%, je crois, si mes chiffres sont bons. Tandis que le nouveau Front populaire, qu'il faut soutenir à tout prix contre cette bête immonde, arrive à 28%. Et le parti de Macron est à 18%. Donc ça a le mérite d'être un peu clair et je vous laisse m'analyser ça. Je vous le donne comme je le dis. Qui veut commencer? Yann, vas-y.
Oui, je viens. Non, la question, elle est large, mais je pense effectivement il faut voir qu'est-ce que les européennes disent concrètement dans l'analyse des résultats, etc. Et moi, je pense que il faut sortir du débat simplement est-ce que ce sont des fâchés pas fâchés ou alors est-ce que c'est un vote raciste. Je pense que c'est quelque chose qui est plus complexe et qui parle à la fois de dynamiques réactionnaires qui sont beaucoup plus larges, qui sont même à une échelle internationale avec le génocide en Palestine, avec la guerre en Ukraine, etc., etc. Et toutes les politiques que le Macronie a menées sur ce terrain qui ont fait que l'extrême droite a pu monter, ça c'est une chose. Et je pense qu'il y a aussi une chose qui est intéressante dans ces élections européennes, c'est que ça marque de toute la droitisation du spectre politique, mais aussi dans les classes moyennes supérieures, où en fait pour la première fois ils votent plus RN, ce qui est, enfin, et ça je pense que c'est l'enseignement principal, c'est aussi qu'il y a un effondrement du bloc de centre, du bloc macroniste, de sa base sociale était aussi de la droite traditionnelle, mais qui aujourd'hui fuit vers l'extrême droite. Donc je pense que c'est vraiment un phénomène qui est très complexe, mais qui, oui, parle aussi pour une partie d'un ras-le-bol, d'une colère, et qu'il faut pas, qui, je pense, est important de pas arrêter trop rapidement au fait que c'est un vote raciste ou pas, parce que sinon, je pense qu'on passe à côté de l'analyse et on passe aussi à côté de quelle réponse on apporte à ça.
Denis, confirmation ou pas d'un malaise dans le pays en fonction de l'élection européenne et des nouveaux sondages?
Bon, malaise, oui. Qui dira qu'il n'y a pas de malaise? Mais je repense à ce qui a été dit tout à l'heure en prologue. J'ai noté, on disait, enfin il était dit, il faut voter sans trop réfléchir. Bon. Moi, je pense qu'il faut réfléchir. Et si on cherche à analyser ce qui s'est passé pour que le RN l'emporte, en particulier dans les milieux populaires, je crois que ça procède d'un pas justement pas d'une réflexion, mais il y a des travailleurs qui ont pensé à trouver enfin quelqu'un qui leur tape pas trop dessus. Alors, la droite avait été essayée, la gauche a été essayée, et ils nous ont tapé dessus. Et alors maintenant, ils vont essayer d'aller chercher un sauveur suprême chez celui qui n'a pas encore été essayé. Bon, moi, je pense qu'ils seront trahis et cocus, comme par les autres. Avec Bardella, on le voit déjà, il n'est pas encore au gouvernement, que déjà, les mesures sur la retraite, il recule à toute allure. Et ça sera partout pour ça, parce que ces hommes politiques, la droite, la gauche et l'extrême droite, sont à genoux devant le capital, devant la finance. Et si on veut faire quelque chose de bien pour les travailleurs, bien il faut que les travailleurs pensent que ça sera à eux de le faire. Il n'y aura pas de voleur suprême,
de sauveur suprême.
Hein, c'est aux travailleurs eux-mêmes de se mobiliser. Sinon, quel que soit le résultat du vote, eh bien, on va continuer à s'enfoncer. Alors on va s'enfoncer sur tout ce qui concerne la vie des travailleurs, les salaires, l'emploi, le logement, la retraite, etc., etc. Voilà.
Denis, qu'est-ce que tu dis quand tu analyses la sociologie du vote sur les européennes? Qu'est-ce que tu dis aux travailleurs, aux ouvriers, aux employés, quand à 52% presque, ils votent pour le Rassemblement national?
Mais je leur dis qu'ils font la même erreur que lorsque, à je ne sais plus quel pourcentage, ils cherchaient du côté de la gauche quelque chose qui ne serait pas à leur détriment. Moi, je regrette.
C'est quand même pas la même erreur. Je regrette. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. L'erreur n'est pas du tout du même niveau. Quand on risque de mettre le Rassemblement National à la tête du pays, on ne peut pas parler d'une erreur. C'est vraiment plus qu'une erreur. Bon, c'est une faute.
Moi, je pense que la nouveauté avec Bardella, ce sera en pire. Pourrir la vie des travailleurs immigrés et empoisonner la classe ouvrière en la divisant pour que le grand patronat puisse continuer à faire des surprofits sur notre dos à tous. Voilà. Je ne dis pas que c'est anodin. Mais je dis que si on pense pouvoir empêcher ça en allant voter pour le nouveau Front Populaire, on se trompe. Le nouveau Front Populaire, entre parenthèses...
C'est juste un barrage. Provisoire.
L'appellation même est un mensonge.
Oui.
Parce que c'est pas le Front Populaire qui a barré la route au fascisme en 1936, c'est la grande grève qui a obtenu, y compris les congés payés et les 40 heures. C'était même pas au programme du Front Populaire.
D'accord.
Et je vous signale encore une chose, c'est que la même assemblée du Front Populaire, 3 ans plus tard, votait l'investiture de Pétain. Alors, comme barrage, on peut faire mieux.
Jean-Pierre, ton analyse, toi, sur premier tour des élections législatives, je pense que...
Et la suite des européennes.
Ton initiative sur ta lance, tu vas nous en parler, tu vas sûrement en parler un peu, mais bien évidemment, toi, tu appelles à voter pour le nouveau Front Populaire.
Absolument. Alors, moi, je veux revenir sur le... Que penser, comment analyser ce résultat des européennes ? Parce que ça me paraît tout à fait important. La première caractéristique, il y a deux caractéristiques qui me paraissent essentielles pour les européennes. Le premier, c'est l'abstention. Le niveau de l'abstention qui est considérable et qui laisse donc pour la suite un espace qu'il faut occuper, voir comment il va, qu'est-ce qu'il va devenir, comment il va s'exprimer. Le deuxième élément nouveau et extrêmement fort, à mon avis, c'est la chute de la Macronie. La chute de la Macronie. Depuis que Macron a été élu, il a été élu dans des positions qui lui permettaient de faire du chantage. Je suis le chaos ou moi, le Front National ou moi. Là, il a chuté et il ne peut plus dire ça par rapport au résultat des européennes. Ça me paraît un élément important. Alors après, effectivement, ça traduit dans le pays, je dirais d'abord une forme de désespérance. On n'est pas content de la situation actuelle, on ne voit pas d'issue. Alors, par rapport à ça, il y a effectivement eu, dans un contexte de désunion des forces de gauche, il y a eu des votes de fidélité qui se sont exprimés. Et aujourd'hui, ce qui me paraît essentiel, et c'est ce qui a motivé, je dirais, mon appel dès le lendemain matin des européennes, quand je me suis dit, en voyant les chiffres, mais nom d'un chien, si ces foutus quatre partis de gauche, ils sont capables de s'unir, on est capable de gagner. La gauche unie est capable de gagner dans une logique de législative qui n'est pas... c'est pas une élection comme ont été les européennes. C'est des élections à deux tours, avec des conditions d'accès au deuxième tour qui ne permettent pas à tous les candidats du premier tour de se présenter. Bon, il faut avoir 12,5% des inscrits, ou ce qui est considérable, bon, ou être arriver à un des deux premiers en tête du premier tour. Donc ces circonstances-là font que on est dans une situation qui est ouverte, et je crois que dans les situations politiques ouvertes, les dynamiques politiques comptent énormément. Et on est aujourd'hui, et en ayant élaboré cet appel citoyen sur la commune de Talence et l'ayant porté, proposé à signature sur le marché, à la sortie d'école, devant des supermarchés de la commune, on peut se rendre compte que il y a vraiment un immense espoir qui s'ouvre. Il y a un immense espoir qui s'ouvre. Et c'est effectivement extrêmement émouvant de voir, je dirais, tous ces retraités qui disent, mais enfin, cette fois-ci, il ne faut pas rater. On a raté le coche de pas beaucoup, à la fois parce qu'on a perdu des élections, mais aussi parce que les ayant gagnés, on ne s'est pas assez mobilisé derrière pour obtenir l'application des programmes qui nous intéressaient. Les gens nous l'ont dit, ça. Bon, et là, ils sont dans le sentiment d'avoir cette élection et ses suites au bout des doigts. Bon, dans le quartier de Talence-Loire, où il y a beaucoup d'étrangers qui vivent là, c'est extrêmement spectaculaire de voir à quel point la population, soit directement étrangère, soit qu'il y a des liens avec l'immigration, quoi, hein, bon, est sensibilisée. À la fois, il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur de l'arrivée des fascistes au gouvernement. Enfin, c'est clair, quoi. Et c'est pas une abstraction pour eux, ce qui leur pend au nez, quoi. Bon. Et puis, en même temps, il y a un espoir. Donc, ils ont envie de se bouger un petit peu. Donc, dans une circonstance comme celle-là, moi, ce qui me paraît essentiel, c'est on a une fenêtre qui est ouverte. Il y a une dynamique politique qui peut se mettre en route. C'est à nous d'occuper le terrain. C'est à nous, citoyens, d'occuper le terrain. Et quand je dis nous, citoyens, c'est pas parce que je fais pas confiance aux partis politiques. Mais je pense qu'ils sont ce qu'ils sont. Ils sont pas plus que ce qu'ils sont. Donc, qu'un mouvement que peut incarner le Front Populaire soit un mouvement victorieux dans la durée, il y a besoin que des citoyens se mettent en route. Il y a besoin que des citoyens à tous les niveaux considèrent qu'ils ont leur part de responsabilité dans la victoire.
Ok, on a compris. Situation ouverte, dynamique à renforcer. Donc, c'est tous contre le Rassemblement National. On se lève et on prend le terrain. Claude, moi, j'aimerais avoir ta position. La classe ouvrière sans issue vote comme ça pour le RN ou les politiques des uns et des autres l'ont simplement acculé à ce vote. Comment tu le vois, toi ?
Oui, c'est plutôt les politiques des uns et des autres qui ont fait progresser le RN. J'étais assez d'accord avec ce que disait Denis tout à l'heure. D'ailleurs, le NPAR, on appelle à voter lutte ouvrière, on appelle à voter révolutionnaire. Non pas qu'on combatte le vote Front populaire, mais parce que pour beaucoup, ça apparaît comme la seule issue sur le plan institutionnel, le plan électoral, pour empêcher ou essayer d'empêcher le RN d'arriver au pouvoir. Mais peut-être qu'il pourrait gagner le 7 juillet, mais qu'est-ce qui se passera le 8 juillet ? Macron a déjà dit qu'il était... d'abord, ça veut dire une cohabitation avec Macron. Or, je voudrais rappeler quand même que Macron, il a fait ce que Bardella lui a demandé en dissolvant l'Assemblée, qu'il s'est affirmé prêt à cohabiter avec le RN et qu'il est d'autre part l'enfant de Hollande qui l'avait promotionné avec tous les médias pour faire une politique absolument anti-ouvrière. Une politique anti-ouvrière qui est menée par les gouvernements de gauche depuis... quatre décennies. Alors, aujourd'hui, il y a des raisons plus profondes. Yann l'a dit sur la montée de l'extrême droite. Il y a une situation internationale, les besoins des classes possédantes, parce qu'il faut imposer l'ordre qui est déjà en place, hein, quand même, pour faire accepter que le capitalisme ne fasse ses profits qu'avec de la régression sociale. C'est la situation aujourd'hui. Régression sociale, je rajouterai une crise écologique majeure qu'ils ne font qu'aggraver et dont je pense qu'il faudrait une révolution pour changer ça. Et puis la guerre. Et donc il y a de fait une situation qui ne peut pas trouver d'issue parlementaire. Alors, bon, c'est une chose, ne pas combattre le vote Front populaire. Moi, je ne le combats pas. Mais la question, c'est vraiment, bon, peut-être comme ce que font les citoyens de Talence, de discuter, de se réunir, de se regrouper pour envisager ce que nous, les travailleurs, les petites gens, tous ceux qui sont méprisés par les gouvernements et les capitalistes que servent ces gouvernements, eh bien, on peut faire pour se mobiliser avec l'idée de s'organiser en vue de prendre le contrôle nous-mêmes de la société.
Michel, toi, tu es dans le champ des experts. Tu fais partie des économistes atterrés. Tu vas peut-être nous donner vos appréciations des uns et des autres, et on va commencer par ton appréciation sur cette situation délicate où le RN peut arriver au pouvoir et où on a un front, le nouveau Front populaire, qui peut aussi, bien évidemment, gagner, et il faut faire gagner ce Front populaire. Je te laisse la parole.
Tout à fait, et là-dessus, on est d'ailleurs tous d'accord, hein, au-delà de la diversité des sensibilités des uns ou des autres. Donc je crois qu'il faut quand même rappeler qu'on est, si on reprend le contexte mondial, l'économie mondiale et de la société mondiale, on est dans une phase manifestement de crise, où le passage au capitalisme néolibéral qui a démarré à peu près vers les années 80, après d'autres formes de capitalisme plus keynésien, plus social-démocrate, etc., les dégâts opérés par ce capitalisme à l'échelle mondiale et à l'intérieur de chaque pays, à l'intérieur des sociétés de chaque pays, sont considérables. Et on ne peut pas ignorer ce qui se passe au niveau de l'évolution des situations politiques dans les divers pays. On ne peut pas l'ignorer et ne pas le mettre en relation avec cette crise fondamentale. Et il est habituel, on a des précédents, que lorsqu'il y a une situation de crise ou de polycrise, parce qu'il y en a plusieurs qui sont en train de s'entremêler, dans ces situations-là, il y a une demande d'ordre des uns et des autres, et pas uniquement des capitalistes. Je suis bien d'accord avec l'idée que les capitalistes, collectivement, ont besoin renforcé d'ordre politique pour mener à bien la continuation de l'exploitation. Mais il y a aussi une demande d'ordre liée à la montée des incertitudes dans la vie de chacun, dans l'insertion de chacun dans la société. Mmh. Et cette montée des incertitudes crée cette déstabilisation crée des comportements qui sont susceptibles de se tourner, en termes politiques, vers des solutions pour le moins autoritaires, voire pire. Et j'interprète pour ma part l'ampleur du vote pour le Front National, puis maintenant le Rassemblement National, par un certain nombre d'éléments liés à l'histoire politique de la France, bien entendu, les déceptions opérées résultant de la succession de politiques de gauche qui n'ont pas été à la hauteur des attentes des milieux populaires. C'est une évidence. Mais il y a eu aussi, dans d'autres milieux, et intégrant aussi les milieux populaires, la déception de la politique Macron par rapport à ce que certains attendaient. Bon, et la déception aussi apportée par les politiques de droite menées par des gouvernements dits républicains par rapport aux attentes de certains. Résultat, l'accumulation de ces déceptions et le contexte général d'une demande d'ordre, ça me paraît être le fondement de l'ampleur des résultats du Rassemblement National aux Européennes, et la confirmation par la succession de sondages, comme tu as rappelé, la confirmation de ces choix. Et nous sommes en présence d'une difficulté fondamentale, c'est que s'ils ont la majorité absolue, ils vont pouvoir, au moins dans un premier temps, commencer à appliquer une partie de leur programme qui va être hyper autoritaire, évidemment par rapport aux immigrés, mais aussi par rapport aux syndicats, par rapport aux associations, enfin, aux milieux culturels.
Par rapport aux droits des femmes aussi.
Aux droits des femmes.
Ils combattent l'égalité, ils remettent en cause l'avortement. Voilà, par rapport aux immigrés, bien évidemment, hein, puisqu'ils veulent détruire l'AME.
Et pour terminer, parce que je ne veux pas monopoliser, dans ce contexte-là, on n'a pas le choix. Pour moi, je le dis, c'est irresponsable de ne pas s'engager aujourd'hui à soutenir le nouveau Front Populaire. Pourquoi ? On sait, à partir des résultats des européennes, on a calculé, ça a été fait dès le lendemain, la transposition des résultats des uns et des autres, des européennes, par circonscription, avec des partis de gauche partant séparément et avec des partis de gauche unis, avec un candidat unique. Dans le premier cas, la gauche, en supposant que les mêmes proportions de votes étaient répercutées. Dans le premier cas, la gauche n'apparaissait au second tour que dans environ 280 circonscriptions. Dans le second cas, dans le cas d'une union, à supposer bien entendu que chaque électeur de gauche vote pour le candidat de la gauche, qui est là, dans le second cas, la gauche apparaîtrait au second tour, pas gagné forcément, mais au second tour, dans deux fois plus de circonscriptions, environ 560. Lorsque ce résultat est apparu, je crois que les dirigeants des quatre partis de gauche, en l'occurrence, et plus quelques ONG et associations, ont été convaincus que c'était impossible de ne pas faire alliance dès le premier tour pour les législatives.
Bon, Michel nous montre qu'en s'alliant et dans l'unité, on peut gagner et on peut chasser le RN. En tout cas, en fonction de ce que vous avez dit les uns et les autres, on voit bien que ce soit Denis comme Claude, comme Jean-Pierre, comme Michel, comme Yann, on voit bien que la ligne, c'est bien évidemment battre le RN, faire battre le RN, stopper la montée de la bête immonde en France. Après, il y a quelques divergences d'appréciation, mais je pense que les auditeurs l'auront compris. Nous allons arrêter là sur ce sujet. Et on va mettre une petite musique, c'est Oui de Eiffel.
années 30 qui s'offrent au lendemain. La bonne vieille goutte de sueur perlante au front républicain. À d'obscurs programmes hologrammes, au cynisme démenti. C'est dans l'air comme Camarde qui fait youpi. Qu'à tout moment la rue s'obstine à dire oui. MK Ultra, machination qui retourne qui. Plèbe, cobaye, volontaire, souffle à qui l'on de la poésie. Parc sur écran de concentration, cloud des charges publiques. Dessine-moi en mouton, la rue c'est le produit. Qui au pilon d'une abab opinera les chefs. Fast and quick. Face à l'animal, sans voix ni loi. Politique au patronat, le biscafa. Architecte du terrorisme. Pour la mort, l'homme en marche, ou bas, ou bas. Hypnose, putaclic, putain média. Regarde bien, on est désespéré. Ça pourrait buter. Sauf les banques, mais pas la planète. Nos bons arbres chevelus. C'était pas du boogie woogie. Mate l'avenir de oui oui. Bénir sa propre crise. À de bons heureux élus. Pochette surprise. Face à l'animal à son froid ni loi. Politique au patronat lobby scafa. Architecte du terrorisme. Pour la mort l'homme en marche ou bas, ou bas. Hypnose putaclic putain média. Regarde bien, on est désespéré. Désespéré. Regarde, la rue l'a aidé lavé. Sinoc. Désespéré. Tous possiblement blasés.
C'est la personne qui prend la mer. C'est la mort qui prend l'air. Quand des guerres, ce petit prince trouve même sa rose dégueulasse.
Comme un bouquet d'années 30, le progrès au fusil. Jamais au grand, jamais ne versons dans le tous. Pourri. Oh puis merde à 95%. Oui.
Face à l'animal à son froid ni loi. Politique au patronat, lobby scafa. Architecte du terrorisme. Wow. Manchurian candidate, corps déjà froid. Kamikaze, boss, des boss, fils des Versa. Et leur bombe de nihilisme. Pour la mort, l'homme en marche, ou bas, ou bas. Une effraction de seconde pour stopper ça. Désespéré.
Écoutez, oui, du groupe Eiffel, désespéré. Nous vous écoutez l'émission Acétone sur la clé des ondes 90.1. Nous avons une fourchette d'invités. Ça va de Hello jusqu'au RP et au NPAR, en passant par un économiste atterré et un citoyen talensé qui vient nous dire ce qu'il fait pour lutter et pour que le front populaire arrive en tête dans sa commune. Voilà, nous allons continuer cette émission. C'est notre septième table politique et nous allons aborder justement le nouveau Front populaire. Est-ce que d'après vous, c'est une réponse efficace pour gagner au soir du 7 juillet, parce que sur les élections législatives, il y a la stratégie du premier tour qui est le 30 juin. En général, le 30 juin, eh bien, premier tour, on choisit, et le deuxième tour sur les législatives, on élimine. Donc, je vais vous laisser la parole là-dessus, sur vos stratégies les uns et les autres, en sachant qu'on en a déjà abordé quelques-unes. C'est Jean-Pierre qui a ouvert la porte en occupant le terrain, en créant la dynamique et en la perpétuant et en l'amplifiant. Voilà, je vous laisse cette question comme elle est et je donne la parole à Yann.
Oui. C'est très large, enfin, du coup, essayer d'être synthétique, mais moi je voudrais repartir du débat qu'on a commencé avant pour pouvoir répondre à cette question, parce que j'étais d'accord avec ce que disait Michel sur la question des polycrises et sur l'ampleur de la situation aujourd'hui, sur le fait qu'il y a une crise structurelle du néolibéralisme qui fait que il y a une nécessité pour la classe dominante d'attaquer durement la classe ouvrière, la jeunesse, les quartiers populaires, même l'ensemble, je veux dire, des communautés, etc. Ça, je pense que c'est une chose qui est importante et que forcément, c'est pour ça aussi qu'il y a le saut d'autoritarisme ces dernières années. Enfin, je pense que cette question de la profondeur de la crise, elle est importante et elle se répercute aujourd'hui sur l'ampleur de la crise politique qu'on est en train de vivre en France. Je pense qu'il faut voir au-delà du 7 juillet, je veux dire, qu'est-ce que ça va donner, parce que c'est encore des scénarios qui sont incertains. C'est à peu près, enfin, moi j'étais d'accord avec l'expression de dire qu'on est dans une situation fluide, ouverte. Ça, je pense que c'est important de le garder en tête et pour voir justement comment on arrive à apporter une réponse qui soit à la hauteur de la crise. Et je pense que ça, c'est tout le débat qu'il y a autour du NFP, dans le sens où moi, je comprends la peur, je comprends, moi-même, je l'ai, enfin, je veux dire, et moi, je fais une différence, forcément, avec un gouvernement Macron, un gouvernement RN, enfin, je veux dire, je pense qu'il y a une continuité dans les politiques, parce qu'il y a beaucoup de points de contact, tant sur les questions économiques que sur les questions sécuritaires, mais que forcément, ça va être un autoritarisme encore plus dur, notamment pour les étrangers, pour les droits des femmes, pour les droits LGBT, etc. Ça, c'est clair et net, et moi je comprends
Les droits des chômeurs et précaires, tu peux aussi, le dire. Meloni en Italie, la première chose qu'elle a coupée, c'était les moyens de vivre et les droits sociaux des plus faibles. Ça, toutes les SDF, les personnes au RSA, les allocations chômage, tout y est passé. Hein.
C'est clair, ça on est tout à fait d'accord par rapport à ça. Et justement, pour moi, parce que s'il y a le RN, s'il y a la majorité présidentielle qui reste encore aujourd'hui, enfin, je veux dire, ces questions de ce durcissement du régime, elles se posent. Et pour moi, il faut réussir à poser une réponse qui soit à la hauteur de ça et qui permette d'essayer de prendre à la racine ce problème. Et je pense qu'aujourd'hui, tout en comprenant ça, moi, ce que je dis à tous les gens qui votent NFP, etc., c'est de pas avoir d'illusions et qu'aujourd'hui, il faut s'organiser pour chercher plus, parce qu'il y a une impasse dans le NFP qui est qu'aujourd'hui la frange qui est en train de prendre la direction de ce front électoral et de partis et de guerre de place, comme on a pu le dire, c'est la frange de la gauche droite, la gauche qui a été au gouvernement, la gauche molle qui est responsable aujourd'hui de la montée de l'extrême droite. Ça, je pense que c'est important de le dire et de pas trop laver la main facilement à François Hollande et compagnie. Et je pense que ça, c'est, il faut pas sous-estimer à moyen terme, long terme, l'impact que peut avoir le nouveau Front populaire qui arrive au pouvoir la démoralisation, sur des nouvelles désillusions, etc. Et ça ne réglera pas le problème du RN qui est profondément ancré, qui est profondément implanté dans le territoire et qu'il faut réussir à discuter stratégiquement comment justement on arrive à concurrencer le Rassemblement National là où il arrive à avancer et à faire émerger une alternative qui soit une alternative plus radicale d'une gauche de combat, d'une gauche clairement anticapitaliste, etc., avec un programme qui soit réellement de rupture. Enfin, on en reviendra après sur la dernière question, sur la question du programme, sur les questions sociales, etc., dont je ne m'étends pas trop par rapport à ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, les millions de personnes qui sont sorties pendant la réforme des retraites, les dizaines de milliers pendant les gilets jaunes, aujourd'hui, ces personnes n'ont pas disparu. Il faut voir les rapports de force, il faut sortir simplement de l'analyse émotionnelle ou morale de la situation et voir les rapports de force qu'il y a aujourd'hui dans la société, notamment en France, et que, il y a des capacités de résistance. Mais pour que ces capacités de résistance puissent être exploitées, il faut réussir à proposer la bonne politique, la bonne stratégie et le bon programme. Et je pense que ce programme, il se situe beaucoup plus à gauche que c'est le NFP aujourd'hui. Et que
il faut sortir de la logique.
Mais non, parce que pour moi, je pense qu'il faut faire peser aujourd'hui le débat.
pense.
Il faut faire peser aujourd'hui dans la discussion le fait qu'on ne va pas s'en sortir avec simplement le moindre mal. Le moindre mal va nous mener au pire. Donc je pense qu'il faut mettre... Enfin, c'est pour ça que nous, par exemple, avec Révolution Permanente, on porte la candidature d'Anas Kazib et de Elsa Marcel en Seine-Saint-Denis. C'est pour porter justement ce message qu'il faut une gauche de combat, qu'il faut une gauche véritablement de rupture, etc., etc. Je m'arrête là pour laisser la parole, mais il ne faut pas... je pense qu'il faut discuter plus profondément,
mais si
stratégiquement.
Toutes les composantes de la gauche tenaient le même raisonnement, eh bien, personne ne serait au deuxième tour. Et ce serait à nouveau, forcément, soit le Rassemblement National, soit
mais
les
vous
macronistes.
Vous pensez que les gens ne vont pas sortir dans la rue?
Yann, oui. Jean-Pierre, toi, t'as une réponse. Tu es parti en résistance à
Talence. Je ne suis pas parti en résistance, je suis parti en offensive.
En offensive, voilà.
C'est pas pareil.
Alors, en offensive, c'est vrai, c'est pas pareil, t'as raison. En tout cas, t'as eu une offensive, t'as créé une dynamique à Talence avec un appel. Explique-nous tout ça.
Ben, comment dire, je me suis rendu compte que, et ça a été validé dans les discussions que j'ai eues en milieu de semaine dernière avec pas mal de personnes, quoi, beaucoup de gens ne se rendaient pas compte du potentiel de la situation. Ils ne s'en rendaient pas compte, tout simplement. C'est-à-dire, il y a une méconnaissance du système électoral de façon détaillée, d'une part, quoi. Il y a aussi une méconnaissance, je dirais, il n'y a pas de culture historique, ou très faible culture historique, quoi, sur les événements tels qu'ils ont pu s'enchaîner au moment du Front populaire historique, ou effectivement depuis. Donc, il me semble que on va régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Le premier qui se présente, c'est cette élection-là, et c'est la nécessité, si on ne veut pas que le Front National soit élu, c'est la nécessité pour le Front Populaire d'être élu et de gagner. Et il n'y a pas photo, c'est ou l'un ou l'autre. Et si le Front Populaire gagne ces élections-là, on n'est pas du tout dans la même situation que s'il les perd. On n'est pas du tout dans la même situation. Alors après, il faut bien mesurer ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en quelques jours à peine, on a des partis qui, certes, avaient des longues histoires d'alliances de rupture. Ils ont été capables de, face à la réalité que tu as rappelée rapidement, ils ont été capables, en quelques jours à peine, de balayer ce qui, entre eux, empêchait qu'il y ait une candidature unique, ce qui est l'élément majeur dans le système électoral dans lequel on est, et puis à mettre sur la table un programme. Alors ce programme, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Heureusement, il n'y aurait plus rien à faire après. Mais il est pas parfait. Mais quand même, les éléments sur le pouvoir d'achat, les éléments sur les droits sociaux, les éléments sur les libertés qu'il y a dedans, ce sont des éléments fondamentaux. C'est pas rien. La politique vis-à-vis des étrangers qui est écrite dans ce programme-là, c'est quand même pas la même chose que ce que prend le Rassemblement National, et c'est pas la même chose que ce que Macron est en train de laisser faire ou de mettre en route. Donc, chaque chose en son temps. Et à vouloir agiter des problèmes qui seront... Je dis pas que ce sera pas de vrais problèmes par la suite, mais c'est pas les problèmes de l'heure. Donc aujourd'hui, il faut gagner.
Il faut gagner, et Jean-Pierre distribue et a lancé un appel, une pétition aussi pour faire le nécessaire pour voter pour le nouveau Front Populaire. Denis, le nouveau Front Populaire pour toi, est-il efficace est-il efficace pour gagner au soir du 7 juillet, et va-t-il gagner ou pas?
Alors, je pense que la menace de l'extrême droite est à prendre vraiment au sérieux. Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. En période de crise, c'est tellement le bazar que il faut de l'ordre. Maintenant, je pense que ceux qui sont véritablement en mesure de mettre de l'ordre dans cette crise de la société capitaliste, ce sont les travailleurs eux-mêmes.
Mais qui vote à 60%.
Excuse-moi, est-ce que je peux terminer?
Oui.
Je sais bien que ce que je dis ne te convient pas tout à fait.
Non, mais
laisse-moi terminer un raisonnement, s'il te plaît. Bon, où j'en étais? Oui, il y a une crise. Je vais vous dire, là, actuellement, avec quoi les capitalistes font-ils leur beurre le plus? Avec l'armement. Pourquoi? Parce que les contradictions du système font que l'on va vers la guerre. Et vous pensez que on va pouvoir arriver à se défendre contre ce danger-là avec tous les partis qui, sur la scène politique, sont en train de dire « il faut y aller ». À droite, à gauche et à l'extrême droite. Excusez-moi, moi je suis pour prendre les choses au sérieux. Il y a quelque chose dont je pense que les travailleurs doivent se rendre compte, c'est qu'ils ont une force qui est capable de régler les problèmes que nous avons sur le dos. C'est même la seule force réellement efficace. On peut imposer qu'il n'y ait plus de chômage en partageant le travail entre tous. Ça coûtera cher aux actionnaires, mais c'est possible. Comment voulez-vous pouvoir améliorer quoi que ce soit pour la population travailleuse sans toucher aux intérêts des capitaux? C'est ça le problème. L'extrême droite se propose comme celui qui va le faire, mais il n'est pas le seul. Tous les autres sont en train de dire « mais moi et moi, regardez comment ça s'est passé au MEDEF, il y avait Bardella, il y avait les autres, et qui faisaient allégeance, et qui disaient « moi je suis capable de... » Capable de quoi? De faire avaler la crise aux populos. Bon, moi, ce que je répète, c'est que je pense que les travailleurs, ils l'ont montré à travers l'histoire, ils sont capables de mettre leur propre ordre dans tout ça.
Alors Claude, le Rassemblement National fait bien évidemment semblant de vouloir s'attaquer au capital. On sait très bien que les politiques réactionnaires antisociales sont faites justement pour rétribuer les plus riches et rétribuer le capital, comme le dit Denis. Le nouveau Front Populaire, ton appréciation sur le 7 juillet?
D'abord une chose, c'est bien évident pour nous que le RN, c'est du Macron empire sur tous les plans, et y compris un danger à plus long terme de véritable fascisme. On parle de la crise, c'est évident qu'aujourd'hui on n'est pas face au mur de l'argent, on n'appelle plus ça comme ça, on dit le mur de la dette. Et c'est pareil, et en réalité le Front Populaire... S'il a ce besoin flécher, de noter tant de mesures fiscales, etc., pour dire qu'il va augmenter le SMIC à 1 600 € net, c'est parce qu'il ne nous parle pas, par contre, de quoi faire face à ce mur de la dette. Comment, même ne serait-ce que les promesses très limitées qu'il a faites, il les mettra en œuvre? Moi, j'y crois pas une seconde. Comme en 83, on nous dira « Ah, mais ce n'est pas possible ». Le RN le fait. Il dit qu'il va y avoir un audit des finances publiques. Tout le monde va faire un audit des finances publiques. Alors la question, ce n'est pas de baisser les bras face au RN, c'est de se préparer à réellement, enfin, de le combattre réellement, aussi bien en changeant l'opinion, en faisant l'opinion, qu'en s'organisant. Et en s'organisant sur la perspective d'une société qui rompe avec ce mode de production capitaliste, qui change le mode de production capitaliste. Personne n'imagine le fait qu'il pourrait y avoir une société sans guerre, sans exploitation, sans humiliation d'une partie de la population pour servir de bouc émissaire, etc. Et pourquoi personne ne l'imagine? Parce qu'il y a bien longtemps que des idées socialistes ou communistes ont été abandonnés par les leaders de la gauche. Eh bien, nous, les révolutionnaires, je crois que c'est le cas de Révolution Permanente, de Lutte Ouvrière, du NPA Révolutionnaire, on pense que ces idées, c'est le seul avenir pour la société.
Et ça, c'est du long terme. Et à court terme, qu'est-ce qu'on fait?
Et d'ailleurs, à court terme, moi, je pense qu'on devrait en discuter ensemble, de la même façon qu'il est d'une certaine logique que les partis de la gauche réformistes qui... pense que les choses peuvent changer par les élections, ont tout à fait logiquement la possibilité de se regrouper, que nous les révolutionnaires on le fasse. Moi, le Front Populaire, le 7 juillet, ok, peut-être qu'il peut arriver en tête face au RN, mais je précise, Macron vient de faire un appel pour un gouvernement d'union nationale contre le Rassemblement National, mais aussi contre qui? Contre LFI. On est bien d'accord. Glucksmann, Hollande, bon, déjà. Donc, et ce gouvernement d'union nationale, c'est un bloc ultra-réactionnaire. Parce que même les LR qui ne sont pas passés au RN, les macronistes qui ont fait la politique qu'on a connue ces dernières années, qu'est-ce qu'elle est sinon xénophobe, militariste, islamophobe, etc. Donc, et évidemment, par-dessus tout, anti-ouvrière. Donc, non, mais... il ne faut pas s'en remettre à de fausses solutions, c'est simplement ce qu'on dit. Et le parlementarisme, encore une fois, moi je ne combats pas le vote Front Populaire, mais je pense qu'il n'y a pas d'issue sur le plan institutionnel, électoral et parlementaire. Et il faut bien le savoir. Et Ceux qui ont 40 ans ou d'expérience le savent bien.
Michel, on ne t'a pas entendu sur la question. J'aimerais bien effectivement que tu nous donnes ton analyse sur Nouveau Front Populaire, efficace ou pas efficace pour gagner au soir du 7 juillet. Et j'aimerais que tu nous fasses un pack sur la dette. Hein, parce qu'on parle beaucoup de dette, mais je crois qu'elle avait été regardée à la loupe. Il y a eu des études faites par les économistes attirés, et que 70%, alors tu vas me le dire, hein, bah, je peux me tromper, mais 70% de la dette pouvait être remise totalement en cause, je crois, au niveau de la dette du pays, à peu près ça.
Bon, disons, ce que je voudrais dire par rapport aux interventions juste précédentes, c'est que sur la question de la responsabilité du capitalisme, dans toute une série d'effets catastrophiques qu'on a décrits, je pense qu'autour de la table, on doit être tous d'accord. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour sortir d'une situation qui, actuellement, est une situation très dangereuse, on l'a dit, parce que l'extrême droite peut arriver au pouvoir par les élections. Bon. C'est une situation où, au niveau des résultats des votes, la gauche, tout comprise,